13h22, on parle de bestialité. Pourquoi? Parce que hier, il y a un projet de loi qui a été présenté à Ottawa. On veut resserrer les lois contre la bestialité. On va aller au point de vue juridique dans quelques minutes avec notre invité Alain Roy, qui est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il est spécialiste du droit animalier également, mais arrive au sein de tout ça également un aspect un peu plus déviant de la sexualité, parce que il y avait une décision de la Cour suprême du Canada qui date d'il y a 2 ans, qui avait statué que la loi existante pénalisait la bestialité uniquement lorsqu'il y avait pénétration. Et dans le cas qui nous avait amené ça devant le tribunal, c'est qu'il y avait eu un individu qui avait, en Colombie-Britannique, qui avait été reconnu coupable d'agression sexuelle sur ses 2 belles-filles et d'avoir eu des rapports sexuels avec un animal. Et sur cet élément, ce méchant moineau-là avait dit, pour ce qui est des rapports sexuels avec les animaux, il n'y a pas eu l'acte de pénétration. Donc, on a fait tomber à la Cour suprême ce volet, finalement, de la décision de la loi. Et là, on dit, ça va aller plus loin que ça. Le ministère fédéral à la justice, on dit, ça va inclure finalement tout contact sexuel avec des animaux. Gilles Chamberlain est psychiatre à l'Institut Louis-Philippe Pinel. Bonjour, docteur Chamberlain.
Bonjour.
Rassurez-moi pour me dire que c'est pas trop fréquent.
Non, c'est extrêmement rare. Et en fait, il y aurait même 2 facettes à la bestialité. La première, qui toucherait plus du sadisme. Okay. Parce que les animaux peuvent être utilisés soit pour se défouler, sadiser les animaux, et à ce moment-là, la recherche du plaisir ne vient pas tant du fait d'utiliser un animal que de voir un être vivant souffrir. Le projet de loi vise ça aussi. Là, on ne peut pas faire souffrir des animaux, que ce soit en les sadisant d'une façon ou d'une autre. L'autre façon dont la bestialité peut être utilisée par les sadiques, c'est d'utiliser un animal pour imposer cet animal-là à quelqu'un. Et dans les décisions qu'on a des tribunaux, souvent c'est ça qui arrive. Là. On a même des mélanges de bestialité et de pédophilie. Là. C'est totalement inacceptable. Et à ce moment-là, c'est pas la personne elle-même qui aurait un intérêt envers l'animal, c'est vraiment des sadiques qui veulent humilier des gens et faire souffrir des gens qui vont utiliser l'animal comme un objet. Et là, il était vraiment temps que la loi soit changée, parce que dans la définition, où ça prend absolument une pénétration pour qu'on parle de bestialité, ça n'a pas de bon sens.
On va épargner les détails. Là. Je comprends qu'on est à heure de grande écoute, là, puis c'est un sujet qui lève le cœur, honnêtement, mais est-ce que, dans votre pratique psychiatrique, est-ce que vous voyez ce genre de situation-là? Est-ce qu'il y a un cas d'espèce, c'est-à-dire chez les individus qui se livrent à du sadisme ou à de la bestialité?
C'est que la bestialité, les gens ne consultent pas. Fait que des vraies statistiques fiables, on n'en a pas. Okay. Il n'y a personne qui va consulter pour ça. C'est des découvertes un peu anecdotiques. Les informations qu'on va avoir, c'est plutôt sur des sondages qui vont être faits de façon très anonyme pour se rendre compte que c'est une pratique qui est très, très, très limitée, qui a déjà été plus importante dans certaines périodes de l'humanité, chez certaines cultures où les gens étaient plus proches des animaux et c'était comme un substitut d'une relation normale. Parce que la vraie zoophilie, c'est quelqu'un qui préférerait être en compagnie d'un animal plutôt que d'un être humain. Et ça demeure très, très rare. Des histoires de substitution, il n'y a pu en avoir dans le temps, mais ça demeure très rare. Il n'y a pas de clinique de ça. Il n'y a personne qui consulte pour ça.
Mais vous dites donc qu'il y a pas, c'est difficile de faire un portrait type, quelqu'un qui aurait commis ce geste-là, mais quelqu'un qui en est rendu là, est-ce que pour vous, c'est à traiter, exemple, avec grande prudence, parce qu'il y a de bonnes chances qu'il ait utilisé un animal, qu'il ait fait du tort au sein des êtres humains, où il n'y a pas de corrélation du tout qu'on peut y faire?
Absolument, il n'y a pas de corrélation. Par définition, la zoophilie, c'est des gens qui aimeraient des animaux, là, par définition, donc qui leur voudraient pas de mal nécessairement, mais qui les utiliseraient quand même à des fins personnelles et égoïstes, là, pour assouvir leurs propres besoins sexuels. Donc, on peut pas permettre ça. Mais comme je disais, ces gens-là ne seraient pas nécessairement des sadiques qui voudraient faire mal aux animaux. Okay. Mais il n'y a pas de clinique de ça. Là. Les gens consultent pas, c'est des trouvailles anecdotiques qu'on va relier parfois à des gens qui vont ajouter ça à leurs problématiques qui ont par ailleurs, qui peuvent avoir d'autres choses en plus. Là.
Je me doute la réponse de la prochaine question, mais je vais vous la poser quand même. Est-ce que ça se réchappe des gens comme ça?
Bien, tout ce qui implique un investissement de libido, c'est très difficile. À partir du moment où quelqu'un est excité par quelque chose sexuellement, c'est très difficile à changer. Okay. Il y a depuis le temps, on essaie de faire des thérapies comportementales pour changer la sexualité des gens. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça devient très difficile. C'est ce qui fait que des gens qui ont une sexualité déviante qui peut nuire à la société, des pédophiles, des sadiques, ouais. Il y a toujours un risque qui peut persister.
Gilles Chamberlain, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
Ça fait plaisir.
Merci, au revoir. Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. C'est important qu'on en parle quand même parce que ça fait partie de notre grande mosaïque humaine de gens, de types qui existent. Puis c'est pas anecdotique parce que je vous dis, quand même, c'est anecdotique en termes, il n'y en a pas tous les jours, là, on s'entend dans les palais de justice. Mais ce n'est pas un fait rarissime ou hypothétique. Ça existe. Donc, il y a des gens qui... la preuve, c'est que la Cour suprême a même été obligée de se pencher là-dessus il y a 2 ans à peine. Et c'est pour ça que le gouvernement fédéral veut resserrer la loi à ce sujet-là. Mais au-delà de l'histoire bestialité et de sexualité, on parle également là, d'un durcissement de la loi en lien avec tout ce qui est combat d'animaux. Puis ça, c'est un fléau. Puis je me souviens d'une entrevue que j'avais réalisée avec des gens qui étaient de sociétés de protection animalière qui me disaient, entre autres, ici au Québec, là, dans des cercles où la personne me dit « Je retrouvais des chiens en mauvais état » et pour moi, c'était sûr et certain ou presque là, que la personne c'était des gens qui étaient liés au crime organisé, qui faisaient des combats de chiens. On parlait dans le sud du Québec, entre autres en Montérégie, où il n'y avait pas de dénonciation parce que c'était souvent relié au crime organisé. Il y a une loi au Québec. Qu'en est-il de la loi fédérale? Alain Roy est professeur titulaire de la Faculté de droit à l'Université de Montréal, spécialiste du droit animalier. Bonjour, Maître Roy.
Bonjour, M. Beaumont.
Monsieur Roy, on va parler, entre autres, de ce durcissement, parce que je disais, la loi sur le bien-être animal est assez claire. Ici, au Québec, là, les peines sont plus élevées qu'elles ne l'ont jamais été, à vrai dire.
Oui, il y a des amendes de dizaines de milliers de dollars qui sont prévues en cas d'infraction et en cas de récidive, il y a aussi des peines de prison. Alors ça, c'est une nouveauté parce qu'auparavant, disons que les sanctions étaient très peu élevées et donc il n'y avait pas beaucoup d'incitatifs à respecter la loi. Là,
si mais à qui s'adresse cette loi-là particulièrement si la protection animalière, que ce soit est sous l'égide du MAPAC là, et de la loi sur le bien-être animal, si le fédéral s'en mêle?
En fait, il y a 2 niveaux d'intervention en matière animale. Il y a le fédéral dans le code criminel et il y a le provincial à travers la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal qu'on appelle la loi Bessa. Il y a plusieurs actes qui sont couverts par les 2 lois. Des actes de cruauté animale ou de cruauté envers l'animal font l'objet de sanctions en vertu du code criminel, comme la bestialité, là, si on revient au jugement de la Cour suprême puis au projet de loi qui a été déposé par le Parlement récemment ou par une membre du gouvernement libéral. Et ces actes-là, donc la bestialité, pour prendre cet exemple, sont aussi couverts par la loi ou constitueraient aussi une infraction en vertu de la loi provinciale. Alors, 2 niveaux de gouvernements qui peuvent avoir juridiction et donc qui peuvent intervenir pour sanctionner les actes. Évidemment, le cadre juridique n'est pas le même. Si je pense ou je parle du code criminel, il y a un fardeau extrêmement élevé au niveau de la preuve. Il faut démontrer qu'il y a eu intention, d'abord, une intention coupable, ce qu'on appelle la mens rea, hors de tout doute raisonnable. Alors, ça prend l'intention, ce qui n'est pas nécessairement facile à prouver, vu de toute façon le fardeau de preuve là, qui est fixé. Alors que la loi provinciale, c'est ce qu'on appelle des infractions de responsabilité stricte. Alors, tout ce qu'on a à démontrer, c'est l'acte. L'acte en soi, peu importe l'intention coupable. Et le fardeau de la preuve est beaucoup moins élevé. On parle du fardeau de prépondérance des probabilités, c'est-à-dire 50% des chances plus 1 que l'acte ait eu lieu. Auquel cas, donc, on engage la responsabilité.
Je vous soumets un cas en étant l'hypothèse. La personne, par exemple, est accusée, est arrêtée pour une série d'infractions. Elle est assujettie à une peine de plus de 2 ans. Donc, on est à quelque chose qui est interpellé par le niveau fédéral. Vient s'ajouter à tout ça des accusations en lien envers la cruauté animale, combat de chiens, par exemple. Est-ce que elle pouvait mieux s'en tirer en échappant à la loi provinciale à cause de ces accusations-là?
Bien, c'est sûr que les accusations portées en vertu du code criminel sont les plus graves et entraînent les peines d'emprisonnement les plus sévères ou les sanctions les plus sévères. Ça, on ne peut pas le nier, Mais comme je le mentionnais, c'est quand même pas mal plus difficile d'obtenir une condamnation en vertu du code criminel. Alors, de temps à autre, on ne fera pas le guess, si on peut dire, du code criminel, puis on va se diriger directement vers le cadre provincial. Bon, le problème avec le cadre provincial, qui est loin d'être mineur, c'est que la loi est sous l'autorité du MAPAQ. C'est le ministère de l'Agriculture, donc, qui est responsable de l'application de cette loi-là. Et il y a tout un processus de signalement qui est prévu dans la loi. Donc, si vous êtes témoin d'un abus, vous faites un signalement au MAPAQ et c'est les inspecteurs du MAPAQ qui font enquête et qui vont décider, finalement, de porter plainte. Disons que ces dernières années, là, on ne peut pas dire que le MAPAQ a été très, très proactif.
Ben non, ils n'ont à peu près pas d'inspecteurs, puis il n'y avait presque pas d'accusations qui ont été déposées non plus.
Voilà. Donc, est-ce que le MAPAQ croit vraiment à la loi? Est-ce que c'est vraiment un enjeu? On va voir ce qu'il y en est avec le nouveau gouvernement. Mais disons que dans le passé, c'est assez décevant. Alors que pour le code criminel, ça, c'est extrêmement positif. Là, la SPCA est mandatée à des pouvoirs d'enquêteur, donc peut enclencher le processus et entraîner finalement l'application de la loi avec la complicité ou l'accord, la collaboration du procureur général. Bon, alors, moi, je fais longtemps que je prône l'idée d'un protecteur du droit animalier au Québec là, qui ne serait pas le MAPAQ. Le MAPAQ, de toute façon, en ce qui a trait, par exemple, aux animaux d'élevage, est en conflit de rôle, en conflit d'intérêts, parce qu'à la fois, il a pour mission de protéger l'agriculture et le bien-être animal, et parfois, c'est complètement incompatible. Alors, à un moment donné, si on croit vraiment au bien-être animal au Québec, on va créer un vrai protecteur des animaux, un organisme complètement indépendant du MAPAQ qui aura des ressources aussi. Il faut voir si on croit au principe qu'on s'est donné. Là.
On me disait, Alain Roy, puis je ne sais pas si cette information-là est la même que vous aviez obtenue, mais quand on avait mis en place justement la loi sur le bien-être animal, les inspections qui se faisaient, on avait parlé entre autres que plusieurs des inspecteurs qui avaient été mis à la disposition du ministère étaient des gens qui étaient œuvraient dans l'inspection de lieux de restauration, entre autres. Moi, ça m'a été raconté par des gens qui œuvraient dans le domaine de l'inspection en me disant, ce sont des gens qui débarquent là, qui ont plus ou moins de connaissances dans le bien-être animalier, à quoi devrait ressembler, exemple, une ferme d'élevage de quelconque acabit. Et ils arrivent là-bas, ils savent pas trop ce qu'ils ont à faire. Donc, pour eux, c'est somme toute très difficile de faire appliquer le règlement parce qu'ils n'ont pas la compétence pour faire leur travail.
Oui, absolument. Il y a eu des cas comme ceux-là. Je ne dis pas que tout le monde est incompétent, là, loin de là. Là, il y a des inspecteurs du MAPAQ qui font très, très bien leur travail. Mais c'est évident que la loi de 2015 était un moment euphorique là, où on s'est dit « enfin, le Québec fait un grand pas en avant ». D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture de l'époque, M. Paradis, disait qu'on faisait un bond de 200 ans en avant en matière de bien-être animal. Mais bon, hein, une chose est la loi, les beaux principes qui sont contenus dans la loi, autre chose est l'application. On ne s'est pas donné les moyens d'appliquer cette loi-là convenablement. Les ressources sont pas au rendez-vous, la formation n'est pas toujours au rendez-vous et la volonté surtout, la volonté gouvernementale n'est pas nécessairement au rendez-vous. On fait primer un paquet de considérations sur le bien-être animal alors qu'on ne devrait pas le faire si on croit vraiment aux nouveaux principes qu'on s'est donnés. Par exemple, considérations économiques. Je pense aux activités de divertissement. Là. Moi, j'ai été impliqué dans une cause d'action à propos des rodéos.
Oui.
Et souvent, on a laissé entendre que, oh, attention, on ne peut pas s'attaquer aux rodéos. Là. Les rodéos, ça entraîne des retombées économiques de 50 millions à Saint-Tite, par exemple.
Oui. Bien, vous et moi, on ne s'entendra pas sur ce sujet-là. ça, c'est sûr et c'est clair, net et précis. Et ce n'était pas le sujet, de toute façon, de notre conversation aujourd'hui. On pourra en débattre un autre moment, M. Roy. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer. Alain Roy est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, spécialiste du droit animalier. Il est 13h36.